Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le magazine du week-end, c'est chaque samedi et chaque dimanche de l'été. 1h10 de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec nos invités jusqu'à 14h. C'est peut-être l'une des plus grandes fractures qui traverse la société française depuis que le plein emploi n'est plus qu'un souvenir. Fracture qui n'a été révélée par le mouvement des Gilets jaunes qu'à ceux qui refusaient jusque-là de la voir. Cette fracture, c'est celle du travail, entre ceux qui en ont et ceux qui n'en ont pas, mais aussi ceux qui en cherchent sans répit et ceux qui n'ont qu'un coup de fil à passer, ceux qui jouent avec les allocations chômage et ceux qui les subissent, ou encore ceux qui ne parlent plus que de fin du travail et de leurs rêves de campagne, quand d'autres sont fiers de s'être construits par une vie de labeur. C'est officiellement pour que le travail paye à nouveau et que les demandeurs d'emploi en trouvent un qu'a été promulguée le week-end dernier la réforme de l'assurance chômage, des droits plus difficiles à obtenir, des allocations dégressives avec le temps, en tout cas pour les hauts revenus, et pour compenser, nous dit-on, des droits ouverts aux démissionnaires. La réforme entrera pour partie en vigueur à la rentrée. Est-ce une bombe à retardement que le gouvernement vient de lancer au cœur de l'été? Nous en parlons avec nos deux invités. Bonjour Philippe Askenazy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en studio. Vous êtes économiste, vous êtes chercheur au CNRS et auteur de Partager les richesses aux éditions Odile Jacob. Et notre interlocuteur est par téléphone. Nous sommes en ligne avec Stéphane Carcillo. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à Sciences Po et chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Merci à vous deux d'être avec nous. Cette réforme de l'assurance chômage, elle est quand même assez complexe. Alors on va commencer très simplement. Philippe Askenazy, est-ce qu'il y avait urgence, d'après vous, à engager cette réforme ?
Alors, je pense qu'il n'y avait pas d'urgence, en tout cas, du moins, pas d'urgence budgétaire. Pour les demandeurs d'emploi eux-mêmes et pour les précaires, il y avait peut-être d'autres types de réformes à engager avant celle-ci. Alors, il faut donc aller chercher ailleurs, hein, ce qui peut être les motivations du gouvernement. Personnellement, j'en vois deux majeures. La première, c'est de continuer sa stratégie de déconstruction du paritarisme en France. Lorsqu'on regarde cette réforme, finalement, c'est une reprise en main de l'assurance chômage par l'État. Peut-être un des éléments qui
est au détriment des partenaires sociaux.
Voilà, peut-être l'élément qui a le plus le plus frappant, c'est que les revalorisations annuelles des prestations chômage vont être assumées désormais par l'État. Donc c'est pas une politique qui est contre les syndicats, c'est à la fois une politique qui met de côté le patronat comme les syndicats de salariés en France, et donc une rupture par rapport à une démarche qui était celle à la fois des gouvernements de droite comme des gouvernements de gauche depuis les années 1950-1960, donc vous voyez plus d'un demi-siècle. Donc c'est un premier élément de fracture. Le second point, c'est d'essayer à travers cette réforme et d'autres, de respecter les engagements européens budgétaires de la France. On va avec cette réforme faire à peu près 1 milliard d'euros d'économie
sur
par
3
an.
Ans.
Alors c'est 3 milliards sur 3 ans, donc c'est 1 milliard par an. Voilà pour. Alors les chiffres sont pas. On connaît pas exactement les chiffres puisque pour l'instant on n'a que les projets de décret. En plus, il faut avoir en tête que le décret en lui-même est court, mais l'ensemble des textes font près de 200 pages. Donc, c'est deux éléments principaux. Et puis, le gouvernement, en quelque sorte, en profite pour mettre en œuvre une nouvelle stratégie vis-à-vis des précaires.
Alors d'abord, pour rebondir sur ce que vous avez dit, il n'y avait pas d'urgence budgétaire, Philippe Askenazy. Néanmoins, la dette de l'UNEDIC s'élève à aujourd'hui un peu plus de 35 milliards d'euros depuis 2008. Mais c'est vrai, Stéphane Carcillo, qu'en même temps, le gouvernement nous annonce, c'est pas le gouvernement, mais on nous annonce des chiffres du chômage à la baisse. Donc, est-ce qu'on pouvait pas attendre un petit peu de voir ce que dessinait la courbe du chômage pour s'assurer que c'était une réforme très urgente à mener?
Alors, sur cet aspect-là, d'éléments budgétaires, il faut savoir que l'assurance chômage, normalement, elle n'a pas vocation à générer des déficits permanents. L'assurance chômage, son objectif, c'est de protéger les personnes qui sont privées d'emploi et les aider à en retrouver un, tout en ayant des règles qui soient effectivement incitatives au retour à l'emploi. Et l'assurance chômage, à ce titre, elle doit bah, générer des déficits quand en période de ralentissement économique ou de crise économique, et puis recréer des marges budgétaires, avoir des excédents en période de reprise. Et c'est vrai que de ce point de vue, l'assurance chômage en France est pas très bien calibrée parce qu'elle génère des déficits les trois quarts du temps.
Alors période de ralentissement économique qui par ailleurs ne sont pas le fait ou la faute des demandeurs d'emploi, mais d'une conjoncture et des politiques d'emploi qui n'ont pas réussi.
Bien sûr, mais elle génère aussi des déficits en période d'économie de reprise, et c'est ça qui est un peu qui suggère qu'elle est pas très très bien calibrée. Donc je pense que effectivement au moment où le chômage baisse et où on a une activité économique qui est pas extraordinairement forte mais qui quand même permet de faire baisser les chiffres du chômage, c'est le moment de prendre ces réformes. Évidemment, on va pas réformer l'assurance chômage pour faire des économies quand l'économie va mal et le chômage monte. Si on fait ces réformes, c'est forcément quand le chômage baisse. Ça c'est le premier point qui laisse à penser que c'était le bon moment pour faire une réforme. Le deuxième point important, c'est un point plus structurel et moins cyclique, c'est le fait que la situation française se caractérise par une très forte incidence des contrats courts et des allers-retours entre chômage et travail temporaire, avec des périodes de travail qui sont extrêmement courtes. Aujourd'hui, la durée médiane d'un CDD, c'est-à-dire 50% des CDD ont une durée de moins de 10 jours.
Et moins d'un jour pour, je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois que l'année dernière, 20% des contrats, en tout cas l'année dernière, étaient des contrats d'un jour.
Voilà. Donc on a une très forte incidence de ces contrats courts, et ce qui est tout à fait frappant en France, c'est qu'on a eu une très forte montée en puissance de ces contrats courts. Il faut savoir que 70% des embauches en CDD sont des réembauches chez le même employeur. Et donc, il y a eu cette montée en puissance de cette forme d'intermittence généralisée, de permittence, qui, quand on regarde les règles de l'assurance chômage en France, sont fortement soutenues par ces règles. Parce que on ouvre des droits très rapidement en France, dès 4 mois de travail, et on recharge ces droits dès qu'on a travaillé 1 mois. Et on a la capacité, de manière quasiment illimitée, de cumuler au cours d'un même mois, une période de travail et de l'indemnisation chômage en complément. Alors, et donc on voit qu'on a ces allers-retours en permanence qui coûtent très cher. Il faut savoir que le travail temporaire en France, CDD et intérim, ça génère 8 milliards de déficit à l'assurance chômage chaque année. Donc il y a un élément structurel là.
Est-ce que toutes les personnes qui sont sous ce type de contrat court, sont toutes indemnisées? Est-ce qu'elles cumulent toutes revenus d'activité et allocation chômage, dont on dit que c'est ça qui plombe vraiment les comptes de l'UNEDIC, Philippe Askenazy?
Alors que partiellement. Alors je pense qu'il faut reprendre ce qu'a pu soulever Stéphane Carcillo. Déjà sur la dette de l'UNEDIC, il faut savoir que aujourd'hui, Pôle emploi est financé par l'UNEDIC. Et ça serait, si c'était l'État lui-même qui directement finançait le fonctionnement de Pôle emploi.
Le fonctionnement, donc les salariés de Pôle emploi, les agents.
Les salariés de fonctionnement, voilà, exactement, les murs de Pôle emploi, ils sont financés à 2/3 par le système d'assurance chômage. Il n'y aurait strictement aucune dette de l'UNEDIC si c'était prise en charge par l'État lui-même. Et d'ailleurs, c'est là où c'est assez étrange. Le gouvernement a décidé un renforcement de l'accompagnement des chômeurs par Pôle emploi, et ce renforcement, il va être financé à nouveau par l'UNEDIC. Donc, voilà, il y a des vases communicants entre les budgets sociaux, les budgets de l'État, et je ne crois pas qu'on puisse dire que véritablement on a construit un système d'assurance chômage qui est structurellement en déficit. Son déficit a été construit.
Alors, ces allocations qu'on peut cumuler, que des demandeurs d'emploi en contrat court peuvent cumuler avec un revenu, qui ont favorisé l'envolée des CDD, ou, ça c'est ce que disent leurs détracteurs, ou qui l'ont simplement accompagné, parce qu'il fallait accompagner des personnes.
Oui, alors vous voyez, d'un point de vue strictement temporel, donc Stéphane Carcillo parlait des droits rechargeables, etc., ils sont arrivés plusieurs années après le début de la forte montée de l'usage des contrats très courts en France. Alors lorsqu'on essaye de comprendre d'où vient l'usage des contrats très courts, c'est une somme de à la fois de décisions politiques, de décisions judiciaires, c'est-à-dire que En 2003, par exemple, la Cour de cassation a reconnu que ce qu'on appelle les contrats d'usage dans certains secteurs, par exemple l'hôtellerie-restauration, qui sont des CDD courts, étaient les contrats normaux.
Ou à la
place
radio.
Du, ou à la radio, oui, oui, bon, voilà. On en trouve aussi dans le domaine de la recherche, par exemple. Mais étaient finalement le type normal de contrat en lieu et place du CDI. Et donc, c'était le premier facteur qui a provoqué une augmentation de ce type de contrat. Le second facteur, c'était la recherche de faire justement des embauches aisées. Et alors, on a simplifié la capacité pour une entreprise d'embaucher. Donc ça, ce sont ces facteurs qui ont créé la donne. Et on a cherché à accompagner les pertes de revenus de ces salariés précaires par un système d'assurance chômage plus favorable à eux.
C'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps à débattre, de savoir faire la distinction entre ceux qui emploient des CDD pour répondre à un besoin ponctuel ou ceux qui ont vraiment organisé le travail de cette manière dans leur entreprise. Mais là, l'idée est de se demander si cette réforme de l'assurance chômage va pouvoir régler quelque chose. Donc le bonus-malus qui sera appliqué aux employeurs qui ont recours, disons, plus que de raison au contrat court. Évidemment, plus que de raison, l'expression n'est pas dans le texte, mais Stéphane Carcillo, est-ce que vous pensez que c'est le début d'une solution ?
Bah, en fait, en principe, ce principe de bonus-malus, c'est de taxer les entreprises qui recourent excessivement aux contrats courts et qui ont du coup beaucoup de fin de contrat de travail chez elles, et aussi de donner un bonus aux entreprises qui ont recours plus fortement aux contrats longs, soit à CDD très longs, soit à du CDI. On a l'expérience américaine dans ce domaine qui montre qu'effectivement ça réduit les allers-retours effectivement vers le chômage et ça conduit à allonger la durée des contrats et des périodes de travail. Donc c'est quelque chose auquel les entreprises s'adaptent assez rapidement d'ailleurs. C'est une incitation financière assez efficace de ce point de vue. Maintenant, l'application qui en est faite en France, il va falloir regarder de très près les modalités. Ce qui est un petit peu décevant, c'est que le périmètre d'application de ce bonus-malus, qui en principe est une bonne idée, est assez restreint puisqu'il s'agit uniquement de 7 secteurs qui représentent, c'est vrai, 30% des inscriptions à Pôle emploi en chômage indemnisé. Mais qui sont des secteurs très particuliers. Ce sont l'hôtellerie-restauration, l'agroalimentaire et
la propreté, je crois.
Voilà, la propreté, mais c'est vrai que, par exemple, la construction est laissée de côté, l'audiovisuel aussi, il me semble. Donc, le champ est assez restreint pour avoir un effet macroéconomique très important. Mais sur le principe, cette modulation, c'est plutôt une bonne idée parce qu'elle s'applique à tout type de contrat et en fonction effectivement du simplement du taux de destruction d'emploi, de séparation de l'entreprise par rapport à la moyenne de son secteur. Et c'est vrai.
Oui, non, parce que j'allais faire rebondir Philippe Askenazy, qui est ici en studio. La seule question qui compte finalement, c'est de savoir si ce bonus-malus va permettre de créer des CDI. Or, si les employeurs, comme ils semblent le dire par la voix de leurs organisations patronales, se détournent des salariés, du salariat, pour se tourner vers les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les travailleurs détachés, pour qui ils n'auront pas à signer de fin de contrat, enfin en tout cas qui échapperont à ce bonus-malus, la réforme aura raté son coup, Philippe Askenazy.
Oui, alors de toute manière, d'une certaine manière, je rejoins Stéphane Carcillo dans le fait que le périmètre est pas vaste et dans tous les cas, les taux ne sont pas très très importants. Donc la menace que brandit les employeurs, et je pense une menace très 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 largement virtuelle. Et j'ai le système de bonus-malus. Alors le cas américain est très très particulier parce que c'est plutôt du chômage partiel que des questions de contrats courts. Mais si théoriquement on admet que faire des bonus-malus, ça peut être très efficace pour changer les comportements des employeurs. Il aurait fallu faire des modulations bien plus importantes que ce qu'a pu choisir le gouvernement. Donc je crois qu'au total, on loupe cette expérience qui aurait été de regarder ce qu'un vrai bonus-malus aurait pu donner sur le comportement des employeurs français.
Alors, qui sont ceux sur qui la réforme aura le plus de conséquences ? Les personnes employées en contrat court, sans doute, Stéphane Carcillo, qui sont ceux qui sont visés, qui sont les plus concernés ?
sont effectivement les personnes qui alternent des contrats courts et des périodes d'indemnisation. A priori, ce sont plutôt eux qui seront le plus fortement concernés. C'est là où il y a effectivement le plus de monde concerné par la réforme potentiellement. Et cette réforme, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire deux choses, ou plutôt même trois. D'une part, elle va allonger la durée minimale pour ouvrir de nouveaux droits de 4 mois de travail à 6 mois. Et de ce point de vue-là, du coup, la France va continuer à être assez généreuse dans l'ouverture des droits par rapport aux pays voisins.
6 mois sur les deux dernières années au lieu de 4 mois jusqu'à présent sur les 28 derniers mois. Bon, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est important de rappeler.
L'année européenne est à 10 mois, donc on restera quand même assez protecteur en matière d'ouverture des droits. Il faudra aussi avoir travaillé, effectivement, pour recharger les droits, une période similaire. Aujourd'hui, il faut simplement travailler un mois pour commencer à recharger ses droits. Donc ça va impacter les gens qui sont en contrat court. Et puis la troisième aspect de la réforme qui est très important, qui est assez peu discuté, mais qui en fait est le cœur fondamental de la réforme, c'est le mode de calcul du salaire journalier de référence qui sert à calculer l'allocation.
Alors, c'est-à-dire, oui, c'est important.
Très important, il faut prendre juste un tout petit peu de temps pour l'expliquer. Aujourd'hui, quand on a travaillé, pour calculer l'allocation, on applique un pourcentage, grosso modo, à un salaire qu'on appelle le salaire journalier de référence, c'est-à-dire le salaire moyen journalier des périodes où on a travaillé. Alors, si on a travaillé 15 jours dans le mois, pendant, disons, 6 mois, en fait, on ne regarde le salaire que des jours travaillés. Et à ce moment-là, on applique un certain pourcentage, on va dire 2/3, de ce salaire pour calculer l'allocation. Et ensuite, on multiplie cette allocation journalière par le nombre de jours indemnisables. Donc, une personne qui aura travaillé, on va dire, 15 jours par mois pendant 6 mois, aura travaillé pendant 3 mois, peut avoir 3 mois, disons, d'allocation. Et donc, c'est vrai que ces personnes peuvent avoir aujourd'hui, en ayant travaillé, par exemple, 50% du temps, une allocation qui correspond à une allocation à 100% du temps, mais uniquement pendant 3 mois. Et donc, en fait, ça donne lieu à ce qu'on appelle des taux de remplacement supérieurs à 100%, c'est-à-dire que les gens peuvent avoir des revenus issus de l'assurance chômage pendant quelques mois qui sont supérieurs aux revenus du travail qu'ils avaient parce qu'ils travaillaient à
temps partiel. C'est très rare, hein, ça concerne très peu de personnes, les syndicats. Oui, je sais.
Une personne sur cinq dans les travaux de Pôle emploi. Mais voilà, ça c'est effectivement une situation qui va changer parce que le mode de calcul de l'allocation va être différent. Le salaire moyen va être calculé sur une période de 24 mois, qu'on ait travaillé ou pas, ce salaire moyen journalier. Et du coup, l'allocation qu'on calculera à partir de ce salaire journalier, eh bien, sera versée elle-même pendant 24 mois.
Voilà, donc une période plus étalée, mais nécessairement des sommes à la fin du mois qui sont tout le temps, qui sont de toute façon plus réduites que si ces sommes-là étaient moins étalées. Donc à la fin, ça fait la même somme, mais évidemment que ce qu'on regarde, nous, c'est ce qui tombe à la fin du mois. Et donc, c'est censé, tout ça, être incitatif. Philippe Askenazy, parmi toutes ces mesures qui ont été évoquées par Stéphane Carcillo, lesquelles vous semblent vraiment en mesure d'inciter, c'est le mot-clé, c'est le mot magique de cette histoire, d'inciter à retrouver un emploi.
Oui, alors si vous voulez, ce qu'il y a de fascinant, c'est que ces dispositifs, ils ont été aussi mis en œuvre au nom de l'incitation à l'emploi. C'est-à-dire, on disait, il suffit que vous retravaillez quelques jours par mois, que vous preniez n'importe quel job, vous allez recharger vos droits. Et donc, cette mécanique-là doit vous inciter à retourner en emploi et favoriser l'emploi. Et aujourd'hui, on utilise à nouveau l'argument de incitation à la reprise d'emploi pour prôner strictement l'inverse. Donc c'est assez troublant.
Pourquoi si l'inverse?
Ben justement, là on dit, eh bien on va vous réduire vos allocations et donc ça va vous inciter de reprendre un emploi. Alors qu'auparavant on disait, si vous reprenez un emploi, ça va vous donner des allocations plus importantes et donc ça va vous inciter à reprendre un emploi. Donc on utilise des arguments d'incitation dans un sens comme dans l'autre pour justifier les réformes qui vont dans telle ou telle direction. Donc je pense qu'il faut plutôt se concentrer aujourd'hui sur l'élément qui est du premier ordre, c'est que vous avez une population en précarité, plusieurs centaines de milliers de salariés qui vont perdre en termes de revenus annuels des sommes pouvant atteindre 1000 euros, aisément, donc 100 euros par mois, en quelque sorte de perte de revenus. Et se pose là, je pense fondamentalement, la question de la pertinence politique. Vous voyez, une pertinence des mécanismes économiques qu'on peut très très largement discuter et qui est extrêmement floue. Et puis, d'un point de vue politique, en revanche, c'est peut-être plus clair. On est dans une France qui est traversée par des colères très importantes, fragilisée une part de la population qui est déjà une population en difficulté, la précariser d'un point de vue financier. Est-ce que c'est aujourd'hui une bonne idée d'un point de vue politique? J'en suis pas du tout convaincu. Et c'est pour ça vraiment que je pense qu'il n'y avait pas d'urgence à faire cette réforme aujourd'hui.
Stéphane Carcillo, est-ce que vous aussi, vous comptez les mois, la réforme entrera en vigueur, les premiers effets, les premières mesures de cette réforme entreront en vigueur à la rentrée, les 6 mois de cotisation au lieu de 4, les allocations dégressives pour les cadres. C'est au printemps seulement qu'entrera en vigueur le salaire journalier de référence, mais est-ce que vous aussi, vous calculez le temps que ça va prendre pour que les premiers effets se fassent ressentir en disant politiquement c'est quand même très compliqué, et même socialement pour une France qui, comme le dit Philippe Askenazy, est traversée de colère?
Alors, il est certain qu'il y aura, je pense, quand même peut-être des remous, en tous les cas, un effet fort de cette mesure, notamment, à mon avis, ce qui est vraiment au cœur, c'est la réforme de ce calcul de l'allocation qui n'entrera en vigueur, comme vous l'avez dit, qu'à partir du mois d'avril de l'année prochaine. Les aspects des réformes entre-temps sont assez étalés. Il y a aussi des éléments positifs qui doivent contrebalancer le calcul de l'allocation, notamment le fait que les moyens mis en œuvre pour l'accompagnement des demandeurs d'emploi et leur formation pour qu'ils puissent accéder à des emplois plus durables soit nettement renforcée.
Alors, formation conditionnée à ce qu'elle coïncide ou corresponde à des besoins du marché, ce qui est aussi une certaine vision de la formation.
En fait, les études montrent qu'en général, les formations professionnelles en tous les cas pour les demandeurs d'emploi, sont plus efficaces et débouchent plus rapidement effectivement sur un emploi durable et sur la stabilité de l'emploi dès lors qu'elles correspondent à un besoin identifié. Donc de ce point de vue, ça correspond vraiment à ce qu'on sait des études qui sont réalisées sur l'efficacité des formations professionnelles. Mais c'est important de mentionner le fait qu'il y a quand même des moyens de formation supplémentaires qui sont mis en balance de la réforme. Il y a aussi des éléments positifs dont on n'a pas encore parlé, qui sont l'ouverture des droits à l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Et de ce point de vue, la France était très restrictive dans l'accès de l'assurance chômage aux démissionnaires. Et le fait d'ouvrir ce droit tous les 5 ans à des personnes qui veulent changer de profession, de job ou de carrière est quelque chose qui me semble être intéressant.
Alors les démissionnaires qui aussi recevront une indemnisation à condition que leur projet, ce mot passe-partout, soit en phase avec les besoins de l'économie. Philippe Askenazy, est-ce que c'est une politique pour cadre? Est-ce que le chômeur est une force de travail ou un capital de compétences?
Ah, vous posez une question complexe. Je dirais que là, pour le coup, il n'y a pas véritablement de changement dans la logique poursuivie depuis maintenant plus de 30 ans.
C'est vrai que ce serait dommage que la formation ne corresponde pas.
Voilà, voilà, exactement. Là où on a bien plus de difficultés, c'est de se projeter à un horizon de 5-10 ans. Les personnes qui sont formées aujourd'hui, est-ce que ça sera les besoins, entre guillemets, du marché du travail à un horizon plus lointain? Ça pose une réforme qui n'a pas encore été faite aujourd'hui, qui est celle de la formation professionnelle dans son ensemble. Donc là, on a un tout petit élément. Et on a peu d'informations aujourd'hui, c'est-à-dire que le suivi renforcé des chômeurs au niveau de Pôle emploi et de la formation, il est prévu une embauche potentiellement de 1000 personnes au niveau de Pôle emploi, mais ces personnes-là risquent d'être embauchées en CDD. Donc vous voyez, on tourne un petit peu en long, on veut lutter contre les CDD, on va faire l'embauche en CDD, et qui est un petit peu la mécanique globale de l'État aujourd'hui, qui est, on dit qu'on veut lutter contre la précarité. Un des grands pourvoyeurs de précarité, précarité aujourd'hui, c'est l'État lui-même qui embauche en CDD. Donc, effectivement, dans cette réforme, il y a une série de petites touches qui peuvent être favorables à certaines catégories de population. Donc, il y a aussi les indépendants en situation de liquidation qui toucheront une forme d'indemnisation. Alors, vous voyez, il y a aussi des petits vases communicants parce qu'ils pouvaient toucher non pas une indemnité chômage, mais ils pouvaient toucher des filets sociaux. Donc, tout cela est difficile, si vous voulez, à anticiper le type de d'effet qu'auront ces éléments particuliers de la réforme. Ça demandera une évaluation et certainement une réévaluation dans un horizon de 3 à 5 ans. Mais tout ça sont des petites sommes par rapport au gros dont on a discuté, qui sont les personnes précaires qui vont assumer une grande part de perte de revenus.
Stéphane Carcio, sur quelle formation seront mis les efforts? Sur quel type de métier seront mis les efforts pour la formation? Est-ce qu'on est en train de réfléchir à ce qui pourra fournir de l'emploi demain aux personnes sans emploi, mais des emplois en CDI, comme le rappelle Philippe Askenazy, et non pas en CDD?
Je pense que l'accès au CDI, c'est vraiment une question qui dépend beaucoup, effectivement, des compétences, de l'expérience professionnelle et de la formation. Donc la formation joue un rôle clé dans l'accès à l'emploi durable et stable. Je pense qu'il y a eu une réforme de la formation professionnelle très importante qui a été conduite en début d'année, avec un plan également d'investissement en formation qui est extrêmement important, et une déclinaison régionale. Et pour répondre à votre question précisément, en fait, les besoins, il faut déjà les identifier localement et trouver des formations ou inciter à la mise en œuvre de formations qui répondent à ces besoins. C'est pour ça que la réponse, elle dépend vraiment du bassin d'emploi de chaque ville. Et c'est quelque chose qui doit être mis en œuvre localement par les régions. Donc il n'y a pas de stratégie, à mon avis, il y a une stratégie nationale sur le principe. Il y a des moyens à mettre en œuvre au niveau national, mais la déclinaison, elle doit nécessairement se faire de manière locale, en lien avec les différents acteurs, les entreprises, les organismes de formation et aussi les agents de Pôle emploi.
Et les centres de formation des apprentis aujourd'hui, qui pour beaucoup déplorent que dans certaines classes, dans certaines voies formation, on ne puisse pas trouver de candidats, tout simplement parce que des pans entiers de l'industrie ont été décrédibilisés, délaissés par les politiques. La question sous-jacente à tout ça, à vous entendre tous les deux, c'est qu'on pourra faire toutes les réformes que l'on veut, s'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Philippe Askenazy, on a aujourd'hui les derniers chiffres du chômage, c'est 3 600 000 chômeurs de catégorie A, et quoi, près de, alors les chiffres varient, mais j'allais dire 200 000 emplois vacants, c'est l'enquête activité et conditions d'emploi de la main-d'œuvre publiée par la DARES au premier trimestre 2019, qui ne prend en compte que les entreprises de plus de 10 salariés, donc on peut penser que le nombre d'emplois vacants en France est beaucoup plus élevé que ça, mais ceci dit, ça n'atteindra jamais les 3 600 000. Donc voilà, toutes ces politiques, pourquoi à la fin s'il n'y a pas d'emploi?
Oui, alors quand même, ces politiques cherchent à favoriser l'emploi.
Tout et du la, moins, création
rentre,
d'emploi,
et la création d'emploi. Elle rentre dans des cadres théoriques qui, a priori, doivent favoriser la création d'emploi. Alors, les 3,6 millions, ce sont les inscrits à Pôle emploi en catégorie A. Si on prend les chiffres, cette fois-ci, du BIT, on est à moins de 3 millions, mais on reste sur des données très importantes. Et effectivement, il y a des emplois vacants, mais pas sur des chiffres monstrueux. C'est normal, dans toute économie, il y a des frictions, des moments d'emploi vacants. Mais lorsqu'on essaye d'un petit peu de comprendre ces emplois vacants, plus d'une certaine manière que des pénuries à proprement parler de compétences, les questions qui se posent, c'est la mobilité des travailleurs. Donc lorsque Stéphane Carcillo parle, il faut rester sur son bassin d'emploi, former dans son bassin d'emploi, etc., c'est parfois dangereux, parce qu'un bassin d'emploi peut être touché par tel départ d'une fermeture d'une grande entreprise, d'une usine localement, et le bassin d'emploi se retrouve sinistré.
Donc, oui, mais parfois, c'est justement ces bassins d'emploi-là qu'il convient de revitaliser.
Alors,
à l'échelle locale,
il faut chercher à les revitaliser. analyser, mais c'est pas, vous voyez, en formant par rapport à ce qui peut être la situation de déclin actuel, il faut arriver à se projeter sur ce que sera le futur de ce bassin d'emploi, et dans l'entretemps aussi organiser une mobilité des travailleurs. Et donc sur ce plan-là, c'est une grande difficulté de la formation, c'est-à-dire que la mobilité, eh bien, elle doit essentiellement reposer sur des formations les plus généralistes possibles. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire de formation professionnelle, mais être en capacité de prendre des types d'emplois différents. Et c'est aussi ça qui permettrait d'arriver à s'arracher d'une situation où on dépend d'un nombre restreint d'employeurs. Donc Stéphane Carcillo parlait qu'une grande partie aujourd'hui des contrats courts sont des situations de réembauche. On est réembauché par le même employeur. Mais justement parce que on a des compétences qui sont trop spécifiques, on a des difficultés de trouver des emplois et on dépend, alors les économistes parlent de monopsone, on dépend d'un petit nombre d'employeurs qui vous prendront sur vos compétences.
Donc vous êtes dans l'air du temps. Vous êtes dans l'air du temps, Philippe Askenazy, vous souhaitez que tout le monde soit généraliste.
Mais,
plus de compétences
spécifiques. Non, mais qu'il y ait de la compétence spécifique, mais une capacité, si vous voulez, d'apprentissage général. Voilà, c'est ça qui, je pense, est important, ne pas être enfermé dans une filière où vos compétences ne dépendent que d'un trop petit nombre d'employeurs. Une grande partie de la problématique de la précarité aujourd'hui, c'est que, justement, vous êtes dépendant d'être embauché par un ou deux ou trois employeurs très spécifiques sur votre bassin d'emploi local. Si vous étiez en capacité d'avoir d'autres options, eh bien les comportements des employeurs eux-mêmes changeraient. Ils voudraient vous retenir. Et vous retenir comment ? En vous donnant un CDI.
Stéphane Carcillo, est-ce que les personnes au chômage seront tenues d'accepter assez vite une offre raisonnable d'emploi, comme on l'a beaucoup entendu ces dernières années avec cette question récurrente de savoir ce que c'est qu'une offre raisonnable d'emploi ? Mais là, est-ce que ça figure noir sur blanc dans la réforme?
C'est quelque chose. Cette question, elle a déjà été discutée de nombreuses fois au préalable. C'est très très dur de savoir ce qu'est une offre raisonnable d'emploi, et c'est quelque chose qui est pas facile à mettre en œuvre par les agents de Pôle Emploi, qui sont au départ ceux qui doivent prendre la décision effectivement de mentionner une carence dans la recherche d'emploi ou pas, et éventuellement de suspendre les droits. Donc c'est quelque chose qui est pas évident à mettre en œuvre. Ce qui est plus facile à mettre en œuvre pour les agents de Pôle Emploi, c'est d'orienter les personnes vers une formation, vers des accompagnements renforcés, de suivre l'activité de recherche d'emploi. Et là, effectivement, ils ont peut-être plus de possibilités d'inciter les gens à une activité de recherche et une formation plus poussée, éventuellement de menacer d'une perte d'allocation les personnes qui refusent de se former ou qui ne cherchent pas de manière suffisamment intensive. Mais cela étant, je voudrais juste revenir sur un point que vous avez mentionné tout à l'heure, au savoir sur le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'emplois. Le nombre d'emplois dans l'économie, comme l'a dit Philippe Askenazy très justement, ça dépend aussi d'un certain nombre de facteurs structurels, et l'assurance chômage peut y contribuer. Si par exemple c'est très compliqué pour des employeurs de trouver de la main d'œuvre parce que les gens refusent les contrats qu'on leur offre, parce qu'ils ne trouvent pas les compétences, ils n'ont pas les gens qui ont l'expérience ou la compétence dans leur domaine, en fait ça va réduire le nombre d'offres de postes qu'ils ouvrent et qu'ils proposent. Donc le nombre d'emplois, c'est pas quelque chose de fixe et qui est donné. C'est aussi quelque chose qui peut dépendre de la capacité que nous avons à orienter les personnes vers les emplois, à les inciter à prendre des contrats de travail plus longs, et aussi à les former pour pouvoir être en capacité de prendre ces emplois-là. Et donc, de ce point de vue, la réforme qui est proposée, bah, va plutôt dans le bon sens, parce qu'elle renforce l'accompagnement. Il y a 10 milliards dans le plan d'investissement en compétences qui vise à renforcer la formation, et elle vise aussi à renforcer, du point de vue de l'employeur et du point de vue des salariés, les incitations à prendre des contrats plus longs, parce que les employeurs vont pas vouloir payer le malus, même si on a vu qu'il y a un trop petit nombre d'employeurs concernés par la réforme, et aussi parce que les chômeurs vont avoir une incitation à travailler plus au cours des 6 derniers mois pour accumuler les droits de l'assurance chômage et donc prendre des contrats plus longs pour accumuler ces 6 mois. Et on sait que ces réformes-là ont des effets. Les demandeurs d'emploi ne sont pas tous uniquement dans l'incapacité de faire des choix sur les contrats qui leur sont ouverts. Il y a une grande disparité de situation. Pour une partie d'entre eux, ils ont des marges de manœuvre aussi, comme les entreprises ont des marges de manœuvre pour offrir des contrats plus longs. Et c'est là-dessus que la réforme veut jouer. Sans jouer uniquement là-dessus, hein. La formation est extrêmement importante et il y a un volet formation, mais c'est un des aspects importants.
Merci Stéphane Carcio. On arrive à la fin de cette émission. Juste une conclusion avec vous, Philippe Askenazy. On a souvent entendu prononcer pendant cette émission le mot d'accompagnement. C'est un changement de modèle social tel que l'économiste Jean Pisani-Ferry, qui est très proche d'Emmanuel Macron, le théorisait dans une tribune dans la presse au moment de l'élection d'Emmanuel Macron. Il faut faire passer le soutien aux chômeurs d'une logique d'assurance à une logique d'accompagnement.
Écoutez, c'était ce qu'on prétendait lors de la création du RMI, il y a trois décennies. Il n'y a pas de rupture, et surtout il n'y a pas les moyens qui sont mis en œuvre pour faire véritablement cet accompagnement, et ces moyens devraient être assumés par l'État en premier lieu, et non pas finalement le faire payer de manière indirecte par l'ensemble des salariés des entreprises.
Merci à vous deux d'avoir été avec nous ce matin pour en discuter. Philippe Askenazy, économiste chercheur au CNRS, auteur de Partager les richesses aux éditions Odile Jacob, et merci à vous Stéphane Carcillo, professeur d'économie à Sciences Po et chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Dans un instant, la seconde partie du magazine du week-end, nous parlerons d'une politique migratoire européenne qui semble se dessiner tout doucement.
Pause. Did he jump or did he fall as he gazed into the morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago.
Thank you.
to the mist, a stone stole from a precipice, paused.
Sisyphus par Andrew Bird, Sisyphe comme le sont chacun, ces milliers d'hommes et de femmes et d'enfants qui essayent, réessayent encore d'entrer en Europe.
Le magazine du week-end, Julie Gacon.
La mer Égée est calme ce samedi et un petit vent d'ouest conduit tranquillement les bateaux de touristes vers les îles paradisiaques. Installés sur les ponts, les yeux baissés vers la mer, ils y pensent certainement à ceux pour qui la traversée se fait entasser sur des canots de fortune. Au-dessous, les abysses, 2 kilomètres de profondeur au moins. Le touriste, en y pensant, a un mouvement de recul. La Méditerranée n'est-elle pas le théâtre de ces tempêtes qu'a dû vaincre Ulysse lui-même? En hurlant, lui fait raconter Homer dans l'Odyssée, nous arrive un furieux zéphyr qui souffle en ouragan. Mes gens sont emportés par les vagues, ils flottent autour du noir croiseur, pareil à des corneilles. Le dieu leur refusait la journée du retour. Pour les exilés auxquels l'Océan Viking va désormais porter secours, il n'est pas question de rentrer, mais d'aller droit devant soi. Bonjour Sophie Rahal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la porte-parole de SOS Méditerranée France. Et donc, votre bateau, l'Ocean Viking, doit quitter Marseille. Il est prêt à partir. Là, il en est où?
Il est prêt à partir. Il y a simplement de derniers aménagements qui doivent être finalisés, des détails techniques. Mais là,
par
c'est
exemple.
Une question. Bah, simplement, par exemple, un plein d'essence sur un de nos zodiacs qu'on utilise, qu'on met à l'eau pour procéder à nos opérations. Voilà, des détails de ce genre. Mais on s'attend à ce qu'ils partent incessamment sous peu là.
L'Ocean Viking qui doit remplacer donc notamment l'Aquarius, lequel a permis de sauver en 2 ans 29 523 et l'unité est importante de personnes. Il a fallu lui faire jeter l'ancre en décembre dernier faute de financement. À l'heure où nous parlons, à votre connaissance, il y a des canaux d'exilés en péril qui attendent l'Ocean Viking?
Alors, c'est compliqué de le savoir. Il y a de toute façon des départs qui se poursuivent. On a déjà atteint le triste chiffre de plus de 500 morts depuis le début de l'année dans cette zone très périlleuse qu'est la Méditerranée centrale. Donc, il y a très probablement encore des gens qui attendent de pouvoir prendre la mer et qui, de toute façon, tenteront leur chance, entre guillemets, ou en tout cas prendront ce risque.
C'est bien de rappeler qui a permis de mettre à l'eau cet Ocean Viking, quels sont les fonds dont vous disposez aujourd'hui et combien de temps vous permettent-ils de tenir pour l'instant?
Eh bien, comme pour l'Aquarius, SOS Méditerranée existe depuis 4 ans. La grande majorité, hein, plus de 90% de nos financements proviennent de dons privés et parmi eux, une large partie proviennent de dons du grand public. C'est avec ces financements, avec ce soutien de la société civile, qui est la base de notre légitimité, qui est vraiment le fondement de notre association. C'est grâce à ça qu'on a mis à l'eau l'Aquarius pendant près de 3 ans. On a arrêté nos opérations avec l'Aquarius, non pas faute de financement, mais à cause des attaques politiques administratives et juridiques qui ont été incessantes et qui se sont accentuées ces derniers mois, qui nous ont contraints justement à mettre un terme à ce contrat d'affrètement avec l'armateur de l'Aquarius. En revanche, il était évident que ce soutien de la société civile ne s'étant pas du tout émoussé, au contraire, les gens ont continué de nous soutenir, même pendant ces 7 mois où nous n'avions plus de bateau et où nous en cherchions un autre, il était évident qu'on repartirait.
Comme son nom l'indique, l'Ocean Viking, il bat pavillon norvégien, un pays européen mais qui n'est pas membre de l'Union européenne. C'était un choix?
Non, c'était pas un choix. On avait plusieurs options à un moment. Enfin, on a examiné plusieurs options au moment d'affréter un nouveau navire. Il s'est avéré que l'Ocean Viking était d'une part le bon outil parce qu'il nous permettait de faire tous les aménagements dont on avait besoin. La clinique pour les rescapés, les salles un peu à l'abri pour les femmes et les enfants. Il nous permettait de mettre aussi d'autres abris pour protéger les gens du vent, de la mer parfois agitée, du soleil qui peut aussi taper très fort. Enfin voilà, tout ça c'était nécessaire de pouvoir le faire également sur ce bateau. Et puis on connaît l'engagement de la Norvège pour d'une part le secours en mer et puis la préservation des droits humains. Et ça c'était aussi fondamental d'avoir cette solidité.
Voilà, la Norvège qui, encore une fois, ne fait pas partie de l'Union européenne. Mais voilà, jusque-là, la politique migratoire européenne était un impensé et les ONG comme les vôtres devaient pallier cet impensé. Aujourd'hui, un ersatz de politique commune semble se mettre en place tout doucement. Et pour en parler, Sophie Rahal, vous êtes ici avec 2 autres invités que je m'empresse de saluer. Bonjour Céline Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes la porte-parole en France du HCR, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Pour bien savoir de quoi on parle, combien de personnes ont réussi à rejoindre l'Europe depuis le début de l'année. Et est-ce qu'on sait combien ont essayé mais ont échoué?
Alors, si on parle de l'arrivée de personnes par la mer ou des voies terrestres vers la Grèce, vers l'Espagne, et puis par la mer vers l'Italie, il s'agit d'un peu plus de 40 000 personnes qui sont arrivées en Europe depuis le début de l'année. Sur les personnes qui ont perdu leur vie en mer, c'est plus de 800 personnes maintenant qui sont mortes. C'est une personne sur six qui a perdu la vie en essayant de traverser la mer pour fuir la violence, fuir des persécutions, fuir les conditions en Libye, essayer de gagner la sécurité.
Et vous êtes également, nous sommes avec vous Virginie Guéraudon, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes sociologue politique, directrice de recherche CNRS au Centre d'études européennes de Sciences Po Paris. Vous écoutez depuis le début Sophie Rall nous raconter la mise à l'eau de l'Ocean Viking et à quoi on peut s'attendre pour les prochains jours. Est-ce que d'après vous, ce bateau est à l'abri de tout blocage tel qu'a pu en vivre évidemment l'Aquarius? On s'en rappelle quand 629 personnes étaient restées coincées des jours jusqu'à ce que l'Espagne accepte de les accueillir, mais beaucoup plus récemment, tous ces nombreux bateaux, et il y en a encore aujourd'hui, en ce moment, en Méditerranée, que ce soit le Alan Kurdi qui est en attente d'un port pour débarquer avec 40 personnes à bord, ou que ce soit le navire humanitaire Open Arms qui a encore secouru jeudi soir au large de la Libye 69 personnes, dont deux enfants et une femme enceinte.
Oui, alors effectivement, on va en parler sans doute le 22 juillet. Donc, il y a eu cette idée d'avoir un accord avec 14 pays, dont à l'initiative de la Finlande, hein, qui va avoir la présidence donc de l'Union européenne, la France et l'Allemagne, mais qui va uniquement s'occuper des gens une fois qu'ils sont arrivés sur le sol européen, ce qui ne règle pas la question de la position du ministre de l'Intérieur italien Salvini. Et effectivement, alors on peut espérer que peut-être certaines ONG vont souffler, mais tout ce qu'on a vu dans les derniers mois, vous avez raison, des arrestations, toutes sortes effectivement de contrariétés administratives, juridiques et autres. Donc ça, je pense pas qu'il y a vraiment d'avancée là-dessus. Certains dirigeants politiques ou anciens dirigeants politiques, je pense des gens comme Enrico Letta qui était au pouvoir en Italie quand il y a eu l'opération Mare Nostrum, payé par le gouvernement italien, qui était une opération de sauvetage. C'est aussi aux États et pas seulement aux ONG de s'occuper du sauvetage en mer. Donc oui, la question n'est pas pour le moment pensée dans son ensemble, encore moins sur ce qui se passe avant, c'est-à-dire en Libye, voire en Tunisie et ailleurs.
On a vu le week-end dernier accoster un navire des gardes-côtes italiens avec 116 personnes bloquées pendant 4 jours au large de l'Italie. 5 pays les ont finalement pris en charge. Alors la France, l'Allemagne, le Portugal, le Luxembourg, l'Irlande et non pas l'Italie mais l'Église italienne. Est-ce que vous l'avez pris, Céline Schmitt, comme le signe annonciateur d'un futur mécanisme à la fois de débarquement, de prise en charge et de répartition entre pays?
Alors oui, c'était un développement bien sûr positif, et de voir que les États s'engagent à ce que se mette en place un mécanisme de relocalisation en Europe. C'est une recommandation qu'on a faite déjà l'an dernier lors des réunions au niveau européen. Il y a eu des avancées dernièrement, et notamment il y a environ 10 jours lors d'une rencontre à Paris entre des États européens.
Vous y étiez, vous, Céline Schmitt, pour le HCR?
Le HCR était présent, effectivement. On nous avait demandé d'être présent pour exposer la situation en Libye, le travail qu'on fait, les recommandations qu'on fait. Et donc il y a un certain nombre de choses qu'on a accueillies de façon très positive suite à cette réunion. Notamment, il y a des prémices effectivement maintenant de mise en place d'un mécanisme de débarquement qui doit se concrétiser, mais il y a un début. Mais au-delà de ça aussi, il y a eu un accord entre les États qui étaient présents, qu'il faut agir. Il faut agir en Méditerranée, il faut agir en Libye. Les États se sont prononcés sur la situation humanitaire en Libye, sur la nécessité de mettre fin à la détention arbitraire des réfugiés et des migrants en Libye. Et c'est des points qui sont extrêmement importants pour nous. Le sauvetage en mer a été évoqué aussi. Et là aussi, le fait de voir que les États reconnaissent que le sauvetage en mer est important est aussi important pour nous. Et on a rappelé effectivement que ce travail de sauvetage ne doit pas être laissé seul aux ONG ou à des navires commerciaux, mais qu'il doit y avoir aussi un mécanisme européen de sauvetage en mer.
Vous avez
existé dans le passé.
Vous avez l'impression, vous, Sophie Rall, qu'il y a eu une prise de conscience, peut-être ou pas, peut-être que c'est quelque chose d'agaçant pour les ONG, je ne sais pas, mais la figure devenue presque christique de la capitaine du Sea-Watch 3, Carola Rackete, qui quand même a beaucoup répété dans les médias, elle est entendue par la justice, à quel point c'était plus possible de laisser les choses comme ça. Vous pensez que ça, les chefs d'État ont pris...
On le dit, nous aussi, depuis l'année dernière et depuis que ces blocages ont commencé, c'était en juin, la fermeture des ports en Italie et l'Aquarius obligé de se détourner jusqu'à Valence. On le disait même avant qu'il était urgent que les États européens s'accordent sur ce mécanisme de débarquement, que ce dernier devait être coordonné, partagé et pérenne. Effectivement, ça a été abordé à la faveur d'une question d'un journaliste le 22 ou le 25 juillet dernier à Paris. Il a été rappelé l'action utile que mènent les ONG, on s'en réjouit. On verra ce que donnent ce que donneront les actes, parce que c'est une annonce, on a un peu l'habitude des annonces, on verra ce qu'il y a derrière. Ça me semble quand même important de préciser que ce qui semble être ce prémisse de débarquement, de mécanisme de débarquement ne résout pas deux problèmes, c'est comme vous le soulignez. La situation des personnes en Libye. On peut appeler à la fin de la détention en Libye, mais il ne faut pas oublier que aujourd'hui les gardes-côtes libyens sont financés, entraînés, équipés par l'Union européenne pour renvoyer les gens qu'ils interceptent en mer en Libye.
Et ça a été abordé le 22 juillet à Paris, cette question-là. Les ONG l'ont rappelé, ont interpellé les États sur cette question-là, sur le financement de l'Union européenne, de la Libye, mais aussi de tous les pays de départ.
Nous, dans nos interventions, on rappelle effectivement notre position qui est que la Libye, dans le droit international, ne peut pas être considérée comme un port sûr. Donc les réfugiés et les migrants qui sont sauvés en mer ne devraient pas être amenés en Libye. Donc c'est quelque chose qu'on a rappelé. Pour les personnes qui sont interceptées et ramenées en Libye parce qu'ils sont sauvés dans les eaux territoriales libyennes, il ne devrait pas y avoir ensuite de mise en détention. Donc trouver des alternatives à la détention, c'est vraiment un point extrêmement important actuellement. Il y a des choses qui existent mais qui doivent être développées pour ça.
Virginie Guéraudon, c'est vrai qu'on a entendu Emmanuel Macron demander la fin de la détention en Libye alors que ça fait quand même plus de 2 ans que tout est mis en œuvre pour que les personnes qui veulent rejoindre l'Europe ne puisse pas dépasser les côtes libyennes. Il y a cette idée fixe qui est de couper la route. Vous avez l'impression que, là encore, le mot de prise de conscience est un peu passe-partout, mais que réellement, ça a été entendu.
Alors, le 22 juillet. Je vais faire un peu historienne, hein, puisque je travaille sur ces questions depuis maintenant trop longtemps. Il faut savoir qu'effectivement, vous avez raison de parler d'idée fixe. C'est-à-dire que, il y a 20 ans maintenant, il y a eu un sommet à Tampere, en Finlande, qui a été la feuille de route sur la construction de ce qu'on appelait une politique commune des migrations et de l'asile. Et déjà dans ce texte, qui était pourtant, qui avait des aspects assez plutôt accueillant, il y avait vraiment cette idée qu'il fallait mettre l'ensemble de l'énergie, de l'argent de l'Union européenne sur ce qu'on appelle des fois couramment l'externalisation de l'asile et des migrations, c'est-à-dire tout simplement de dire qu'il fallait tout mettre en œuvre pour que les gens ne partent pas, pour qu'il y ait tout un système d'éclus, si vous voulez, en amont de la frontière européenne. Par exemple, vous connaissez bien les visas Schengen, le fait que les compagnies aériennes doivent vérifier les visas et les passeports, mais aussi donc la coopération avec des États tiers, dits de transit ou dit d'origine, hein, sachant que un pays comme le Maroc, c'est un peu les deux. Hein. Et donc, ça reste une priorité de l'Union européenne. En 2019, rien n'a changé. Il y a eu des choses nouvelles qui ont été mises en place. Je pense au sommet de la Valette de 2015, où on débloque 2 milliards pour les pays africains, dont 500 millions uniquement sur le contrôle des frontières et pour empêcher les flux.
Le fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique.
Voilà, fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique, exactement. Il y a le processus de Khartoum, commencé en 2014, où là, on va considérer que on peut très bien négocier avec le Soudan et l'Érythrée pour qu'ils participent à empêcher les gens de partir, sachant que c'est aussi des pays sources de demandeurs d'asile potentiels ou de réfugiés. Donc on reste obsédé par l'idée qu'il faut que les gens soient, que la frontière européenne, quelque part, soit au sud du Sahel.
Repousse, soit
le plus loin possible. Ça, c'est pour ça que je dis, après on peut discuter du sauvetage en mer, on peut discuter de l'accueil une fois que les gens sont arrivés, mais il n'y a pas eu de changement sur cette idée. Et alors une idée qui est fausse par ailleurs, de penser aussi qu'on va simplement en donnant de l'argent, on va régler le problème des dynamiques migratoires, des raisons pour lesquelles les gens partent.
Encore une fois, de l'argent que les ONG accusent de surtout servir au contrôle de police et à la chasse aux migrants. Céline Schmitt, le HCR est présent dans les camps de transit et de, j'imagine aussi, de détention en Libye, où sont parqués ces migrants. Quel est votre rôle? Quel est le rôle du HCR sur place? Comment vous faites pour choisir ceux que vous pouvez aider à partir, ce que vous pouvez extraire pour les réinstaller? Le processus s'appelle la réinstallation en Europe.
On est effectivement présent en Libye, on a des équipes sur place avec un rôle humanitaire. C'est un rôle qui n'est pas facile, on est confronté à des situations qui sont compliquées et on essaie toujours de réfléchir à nos programmes sur place pour que nos programmes ne créent pas plus de problèmes en fait que d'apporter des solutions. C'est pour ça que j'insiste en fait sur notre rôle humanitaire, mais on a besoin de pouvoir aider les personnes et trouver des solutions, et c'est pour ça effectivement que dans le cadre de notre travail sur place, on visite des centres de détention, donc les centres de détention officiels, où il y a actuellement environ 5000 personnes qui sont détenues, dont un peu plus de 3000 personnes qui relèveraient de notre mandat, donc c'est-à-dire qui ont fui la violence, qui ont fui des persécutions. Quand on visite ces centres, on apporte de l'aide humanitaire, y compris médicale avec des partenaires, et on essaie d'identifier, dans des conditions difficiles, mais les personnes qui sont en besoin de protection pour pouvoir demander leur libération et pour pouvoir ensuite trouver d'autres solutions, dont la solution principale actuellement, en tout cas pour libérer ces personnes, c'est un programme d'évacuation humanitaire. Donc ils sont évacués vers le Niger, qui a accepté d'ouvrir un centre de transit pour ensuite être réinstallés vers d'autres pays. Il y a de la réinstallation directe qui se fait de Libye vers des pays, dont l'Italie. C'est un programme qui est extrêmement important, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que on a besoin de places de réinstallation pour pouvoir continuer à mettre en œuvre ce programme. Le centre au Niger est très souvent plein, ce qui nous amène à devoir cesser temporairement l'évacuation. Donc on a besoin de plus de places de réinstallation. Et au-delà de ça, c'est un programme pour les réfugiés les plus vulnérables. Donc on identifie les personnes les plus vulnérables, victimes de violences, victimes de torture, qui ont des problèmes médicaux. Mais d'autres solutions doivent être trouvées aussi pour d'autres réfugiés.
C'est ce qui fait dire, par exemple, à l'ancien président du réseau de militants et de chercheurs Migre-Europe, il s'appelle Emmanuel Blanchard, qu'on passe d'une logique de droit à une logique de secours, d'un État obligé par la Convention de Genève à un État qui offre une aide humanitaire, parce qu'on a... Alors lui, le formule sous forme de critique, mais en réalité, est-ce qu'on a encore le choix, Sophie Rahal?
Mais c'est un peu comme notre action à nous, ONG, c'est-à-dire que le sauvetage en mer, c'est un devoir, c'est une responsabilité qui incombe aux États. Ils sont responsables de cette question-là. Si et vous le soulignez d'ailleurs tout à l'heure, l'opération Mare Nostrum, c'était à l'initiative de l'Italie pendant un an, et elle gérait cette question du sauvetage en mer des personnes. Si nous, aujourd'hui, à travers la société civile et avec cette association, on s'est fait le relais, c'est un peu malgré nous, mais c'est parce que il n'y avait plus de moyens étatiques en mer Méditerranée, et que c'est une absence qu'on peut pas tolérer.
À tel point que vous êtes d'ailleurs aidé par les transporteurs privés. Il arrive que des cargos, des pêcheurs...
Parce que c'est une obligation. C'est-à-dire que tout navire qui en a la capacité doit, c'est vraiment le verbe employé, c'est une injonction, se porter au secours de quelqu'un qui se noie, et sans poser de questions.
Alors Virginie Guiraudon, est-ce que cette question a été vraiment soulevée, vous trouvez, de façon sérieuse le 22 juillet dernier à Paris, quand une quinzaine de pays européens se sont réunis pour dessiner les prémices d'une politique migratoire commune, et quels sont ces 14 États membres dont Emmanuel Macron dit qu'ils sont prêts à montrer de la bonne volonté et à se mettre d'accord pour un mécanisme de répartition?
Oui, alors je vais répondre à la question, je voudrais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que on se retrouve dans une situation, et pour reprendre aussi ce que donc les Emmanuel Blanchard de Migre-Europe, dans une situation où on réduit la question migratoire à, d'un côté, un problème sécuritaire et de l'autre un problème humanitaire, et avec une espèce de compétition, comme l'a dit Céline Schmitt, à celui qui sera le plus vulnérable Donc on oublie effectivement les droits de l'homme, le droit international maritime, le droit qui est déjà dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, le droit à pouvoir quitter son pays dans certaines conditions. Et c'est vraiment un tout petit bout de la question, et ça empêche en fait un débat un peu plus global et apaisé sur ces questions.
Mais il y a déjà d'ailleurs un droit communautaire sur ce sujet, mais chaque État trouve toujours le moyen, au détour d'un alinéa, d'une virgule, de trouver, d'opposer une exception et de pas se porter volontaire pour accueillir des migrants.
Ah. En se rendant coupable d'infraction. Enfin, excusez-moi, mais le cas de cette, donc de Carola Rackete qui a été, enfin, même de cette pseudo-loi Salvini qui infligerait une amende à des navires qui rentreraient en Italie, va au-delà. Transgresse, si vous voulez, les règlements internationaux européens, droit humanitaire, droit maritime, droit international, qui font que on doit avant tout sauver une vie et ensuite on débat de l'accueil, etc. Mais les gouvernements le font, et le renvoi de personnes en Libye se fait également au mépris de la Convention de Genève, si je ne me trompe pas, et du droit international.
Virginie Guiraudon.
Oui, effectivement, et du droit international maritime qui est très clair en fait. Pour en venir au 22 juillet, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs types de pays. Il y a des pays du nord, du sud. Enfin, il y a une espèce de mélange qui fait que on ne voit plus les clivages habituels est-ouest ou nord-sud, puisqu'il y a aussi bien la Lituanie et la Finlande que le Portugal, l'Irlande, comme la Croatie. Enfin, il y a une espèce d'équilibre un peu géographique dans cette liste des 14 pays. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'effectivement, l'Union européenne n'existe plus là. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des initiatives gouvernementales de haut niveau, mais on ne voit pas, si vous voulez, l'Union européenne en tant que système institutionnel où il y aurait une proposition de la Commission examinée par le Parlement. On est très en dehors de ça. C'est plus possible déjà depuis longtemps, effectivement, à cause de gouvernements populistes. On parle toujours évidemment de Orban, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est que les mêmes pays qui sont à l'initiative, je pense notamment à la France, puisqu'on est en France, sont dans le 22 juillet montre, je pense que les mots utilisés par le président étaient responsabilité, solidarité et coopération européenne. Alors qu'en France, on sait très bien qu'on a rétabli la frontière Schengen depuis 2015, qu'on n'est pas, enfin, donc, qu'il y a un discours européen du président Macron qui est très différent, en fait, de la politique française en matière d'accueil.
Mais c'est un petit peu le cas pour l'Union européenne, l'Allemagne, la France, qui, dans les mots, sont plus ouverts que les pays, évidemment, de cette liste de pays dits de Visegrad, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, dont on disait qu'ils allaient, eux, prendre la majorité dans l'Europe, finalement. Vous avez l'impression que c'est en train de bouger, qu'il y a un petit retour en arrière, puisqu'il y a encore un an et demi, on disait c'est cette ligne dure-là qui va s'imposer, et notamment après les élections italiennes qui avaient fait basculer l'Italie dans le camp des plus durs en la matière.
Ah, je vois surtout, en fait, d'abord un double discours vraiment entre le discours européen du président Macron et la politique intérieure menée par le ministère de l'Intérieur, notamment en France. Mais vous savez qu'il a une posture internationale et européenne différente, j'ai envie de dire, où là, c'est le progressiste contre les autres. Mais surtout, je vais souligner que c'est vraiment des initiatives intergouvernementales ou qui sont vraiment en dehors du cadre, et là on retrouve les mêmes problèmes qu'on a évoqués, c'est-à-dire en dehors aussi d'une certaine manière du droit européen ou du droit international. Ce sont des initiatives, on ne sait pas d'ailleurs si elles sont pérennes justement, et qui montrent bien qu'il n'y a plus d'accord possible à 27 bientôt. De toute façon, le Royaume-Uni n'a jamais été impliqué, donc c'est pas pour moi une solution pérenne, mais plutôt au niveau du discours, à un niveau très élevé des chefs d'État, effectivement, de vouloir montrer peut-être ce côté un peu humanitaire qui n'avait pas montré avant.
Ce sont des discussions qui vont se poursuivre en septembre à Malte. Céline Schmitt, le Haut Commissariat pour les réfugiés aux Nations Unies, est sortie frustrée, soulagée de cette réunion du 22 juillet. En attendant en septembre, comment vous l'avez vécu, ce sommet entre pays et non pas sommet européen, comme le soulignait Virginie Guiraudon ?
Il y avait plusieurs raisons pour lesquelles... Il y avait plusieurs points positifs et plusieurs raisons pour lesquelles on s'est réjoui aussi des discussions qui ont eu lieu. Et je l'ai dit déjà sur cette nécessité d'agir, de mettre fin à la détention, de trouver un mécanisme de débarquement. dont on a besoin maintenant, rapidement, qui doit se mettre en place pour pouvoir ensuite continuer, bien évidemment, les discussions sur la réforme du système commun d'asile en Europe, qui est crucial. Mais dans l'immédiat, il faut trouver des solutions pour sauver des vies. Donc pour nous, ça c'était positif. Et au-delà de ça aussi, et ça nous permet d'aller un peu plus loin que sauver des vies en mer et la Libye, il y a un autre point qui a été discuté, proposer des places de réinstallation pour les réfugiés. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il faut trouver des solutions pour les réfugiés qui sont en Libye, mais il faut aussi que de la réinstallation se fasse déjà en amont. Donc déjà proposer des voies légales pour des réfugiés qui sont dans des pays sur la route de la Méditerranée centrale. Et là, la France s'est engagée à renouveler en fait son engagement. La France avait annoncé 10 000 places de réinstallation pour 2019. S'est engagée à renouveler un engagement pour les deux années à venir. C'est extrêmement important parce que des solutions doivent être trouvées en amont. Pas pour que les réfugiés ne viennent pas en Europe, mais pour qu'il y ait des voies légales aussi qui soient mises en place, et aussi pour donner des informations sur les dangers de la route, parce qu'en fait, on parle de la Méditerranée, mais sur la route qui mène en Libye, là aussi, des personnes meurent. On n'a pas de chiffres, mais là aussi, il y a des drames, et des personnes qui sont retournées de Libye, par exemple au Niger, où on a des bureaux, nous ont dit, si on avait su, on serait jamais parti. Donc, il y a aussi un investissement qui doit être fait là.
Sur la réinstallation et la politique d'asile, c'est vrai que pour l'instant, chaque État reste souverain pour décider à quels demandeurs d'asile ils accordent protection ou non. Est-ce que vous pensez possible, à terme, une politique européenne de l'asile ? Est-ce qu'on peut imaginer une agence fédérale de l'asile ?
C'est des discussions actuellement qui sont en cours. Et pour nous, effectivement, il est important qu'il puisse y avoir une harmonisation en Europe, ce qui permet aussi parfois d'éviter des mouvements secondaires entre les pays européens qui créent à nouveau des problèmes. Donc des personnes qui arrivent dans un pays et en fait qui, pour des raisons familiales, décident en fait de partir elles-mêmes, reprendre la route, être à nouveau confrontées à des dangers. S'il y a une harmonisation et si dès le début, en fait, dans l'arrivée en Europe, il y a des procédures qui existent, par exemple pour la réunification familiale, c'est extrêmement important.
Virginie Guéraudon, de même qu'il n'y avait pas vraiment d'esprit communautaire le 22 juillet à Paris, il n'y a pas en matière d'asile de politique européenne vraiment envisageable. Chaque État tient à ses compétences qui restent régaliennes, la question de l'asile et de l'accueil.
Alors, il y a effectivement maintenant les pays, il y a des directives européennes qui sont en fait des espèces de conditions minimales sur l'accueil ou sur l'attribution des statuts, mais ça reste effectivement aux États d'établir les procédures, l'attribution. Il y a d'énormes différences d'un pays à l'autre sur le taux d'attribution, sur quel type de personnes sont effectivement accueillies. Il y a eu quand même, je voudrais évoquer, par exemple, le Parlement européen a quand même énormément travaillé. On parle normalement du Parlement européen qu'une fois tous les 5 ans quand il y a des élections, mais ils ont beaucoup travaillé sur la question. D'abord sur la question des visas humanitaires dont parlait Céline Schmidt, pardon. C'est-à-dire le fait de ne pas que les gens prennent la route de la Méditerranée ou une autre route, mais puissent déposer dans un consulat européen une demande de visa humanitaire et d'harmoniser déjà ça. Donc ça, ils ont travaillé là-dessus. Et ils ont aussi travaillé sur la réforme de Dublin au Parlement européen. Ils ont trouvé un accord avant les élections. Ce sont les gouvernements européens, ce qu'on appelle le Conseil des ministres ou le Conseil européen, qui a refusé cette réforme. Parce que avant même de parler d'une agence fédérale européenne de l'asile, il y a déjà aussi la question de Dublin, c'est-à-dire qu'on a fondé la politique européenne de l'asile en 1990 avec la signature de l'accord de Dublin sur une politique anti-solidaire, c'est-à-dire qu'on renvoyait les demandeurs d'asile vers le premier pays où ils avaient transité. L'autre question qui a été évoquée, et pour finir là-dessus, il faut que, de toute façon, quelle que soit cette agence fédérale qui verra peut-être le jour dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, se poser la question toute simple de est-ce qu'on peut forcer les gens d'aller dans un pays où ils ne veulent pas aller dans ces processus de répartition ? Et ça, c'est encore la sociologue des migrations qui s'exprime. ça me paraît pas une bonne solution. Il faut aussi prendre en compte aussi les projets de vie de ces migrants qui ont de la famille quelque part, qui parlent une langue, qui sont plus adaptés. Donc c'est quand même un grand chantier qui, j'espère, sera repris par le nouveau Parlement et évidemment la nouvelle Commission.
Sophie Rall, pour conclure, est-ce que vous pensez que l'Italie, dans le cadre d'un éventuel accord européen, pourrait mettre un peu d'eau dans son vin et revenir sur ce décret qui interdit l'accès des ports italiens aux bateaux des organisations humanitaires?
Alors ça, c'est une question très difficile. Je suis pas sûre que dans le contexte
vous
actuel,
n'y comptez pas, en tout cas.
Ce soit à l'ordre du jour. En tout cas, on n'y compte pas et le droit nous a aussi montré qu'on avait raison.
En attendant, vous allez de toute façon accoster à Malte dans la plupart du temps, quoi. C'est vraiment Malte qui vous accueille le plus ouvertement.
Malte ou l'Italie, on a accosté dans les deux. On est allé jusqu'en Espagne. On espère surtout ne pas avoir à faire autant de détours, mais et ne pas être bloqué comme c'est maintenant la triste habitude.
Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous pour en parler. Merci Sophie Rall, Céline Schmitt et Virginie Guiraudon. Je rappelle que vous êtes respectivement porte-parole de SOS Méditerranée France, du HCR en France et directrice de recherche CNRS au Centre d'études européenne de Sciences Po Paris. Merci à l'équipe du magazine du week-end, Chloé Rossignol, Hugo Boursier, Catherine Donnet, Isèle Sorel-Guérin et Benjamin Teinturier. Cette émission a été réalisée par Charlotte Roux. À la technique, c'était Alex Dang.